21 septembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bonsoir à tous et à toutes, Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver pour parler bande dessinée. Ce sera notre sujet de prédilection pour la prochaine heure, avec une émission bien remplie, bien chargée, comme on les aime, notamment côté rencontre. On aura le plaisir de s'entretenir avec André Caddy, alias Soulman, un bédéiste qui a coordonné, il y a de ça quelques mois, la création d'un collectif BD et d'un ouvrage collectif autour de ce qu'on a appelé le printemps érable. Donc, j'ai eu l'occasion, dans le cadre notamment de mon blog Au Voir, blog personnel www.voir.ca/raymond-poirier. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller creuser un peu dans ce qui s'est fait au cours du conflit étudiant. Donc, en BD, au niveau des planches de BD, de blog, d'illustrations, et c'était extrêmement riche. Il y avait beaucoup de beau matériel. Et donc, ce que lui et des collègues ont fait, c'est qu'ils ont été chercher ce qu'eux jugeaient, j'imagine, enfin on aura l'occasion d'en parler avec lui tout à l'heure, mais ce qu'eux jugeaient le meilleur de tout ça, pour garder peut-être un peu une mémoire de ce qui a été produit, de la grande créativité qui est ressortie de ce conflit-là. Alors on aura l'occasion, évidemment, de revenir sur les événements de ce printemps, donc ce sera avec André Caddy tout à l'heure. Également, Jacques Lamontagne, qui en août dernier nous a livré un nouvel album. Il est actif, évidemment, et on est bien content qu'il le soit. Donc un album qui s'appelle Van Helsing contre Jack l'Éventreur. C'est le premier tome de cette série qui a été lancé. Alors, comment a-t-il abordé cette proposition-là? Eh bien, on en parlera avec lui tout à l'heure. Sinon, côté chronique, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage avec nous. On parlera notamment de Batman année 1, version française. Également, Marco Duchesne, en fin d'émission, qui sera de passage, qui lui nous parlera de la Lorna de Bruno. Alors, c'est le menu de l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, au fil de l'actualité, peut-être avez-vous vu ça passer. D'ailleurs, en fait, on aura une motivation additionnelle, peut-être, à se procurer le calendrier scout 2013, puisqu'il est dessiné par Michel Rabagliati de la série des Pôles, un peu dans la suite logique, je trouve, de sa collaboration, de son travail qu'il a fait avec Paul Auparc, où il racontait justement sa collaboration, son parcours au sein du mouvement scout, un parcours qu'il avait, il nous l'a dit d'ailleurs, qu'il avait bien marqué, qui l'a aidé à progresser, à grandir. Alors, ben, ça m'a pas vraiment surpris de mon côté quand j'ai vu cette nouvelle passer. Alors, ben, ça sera à surveiller. En fait, normalement, il est en vente, il y a des points de vente, du porte-à-porte également. Alors, gardez l'œil ouvert si vous avez envie de mettre la main sur ce calendrier. Et pour plus d'informations là-dessus, d'ailleurs, scoutducanada.ca. Alors cela étant dit, on se lance en musique, c'est la formation Alk qui nous accompagnera au cours de l'émission et on se lance avec un premier extrait. We'll be right back. Et voilà un petit extrait qui s'appelle First Headache, ici à la vie en BD. Maintenant, au bout du fil, on se lance immédiatement dans nos commentaires bande dessinée. Stéphane Gravel est avec nous, bonjour.
Allô, allô.
Ça va bien?
Très, très bien.
Oui, de retour pour une autre année de collaboration.
Avec mes vieilles affaires. Mais pas trop. Je suis pas trop vieux, ce coup-là.
Non, effectivement, quand même assez récent, là, parce que cette semaine, c'est Batman année 1, donc Batman Year 1, version française chez Urban Comics.
Exactement. Écoute, moi, j'ai pas eu la Batmanomanie et la DC comme la DC Manie en version anglophone. Tu sais, j'en avais déjà pas mal plein les bras à lire des bandes dessinées européennes. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai eu peu l'appel du comic book puis du rendez-vous hebdomadaire ou bi-hebdomadaire en librairie spécialisée pour aller chercher son mini fascicule pour avoir son histoire à suivre. Là, j'étais pas là-dedans. Ce qui fait que j'ai passé à côté de choses qui me semblaient peut-être insipides, mais qui sont beaucoup plus intéressantes que je pensais. Et là, je suis en train de redécouvrir ou de découvrir certains de ces aventures-là. On parle de Batman Year One parce que c'est un classique, là.
C'est un classique, et même, en fait, je trouve, avec la sortie estivale du dernier film de la trilogie des Batman de Nolan, il y a comme un beau pont à faire aussi, parce que Nolan s'est vraiment inspiré de l'univers de Year One pour créer son univers de Batman à lui.
Exactement. On met un peu les choses en place. On remet un profil psychologique du personnage en place. La relation Bruce Wayne-Gordon est bien établie. C'est vraiment une belle bande dessinée et c'est vraiment une bonne BD qui est une goutte d'eau dans l'univers océanique de Batman. Mm. Parce que je parle de Year One juste parce que je veux un déclencheur, mais là, le sujet, c'est peut-être plus Urban Comics, parce que ce que Urban Comics sont en train de faire, c'est de tout rééditer les incontournables comme ça de chez DC. Et puis là, on rentre dans un univers qui est extrêmement intéressant. Oui, Panini, la maison d'édition Panini l'avait fait. C'était pas si accessible que ça. Je trouvais parfois les traductions françaises un peu chères. T'as plus le goût d'aller chercher une édition anglaise qu'une édition française, parce que je trouve que chez Panini, ça n'avait pas de bon sens. Mais là, avec Urban, j'ai l'impression que, un, ils font de beaux livres, deux, ils font des livres qui sont accessibles, et là, ça sort en vrac, là. C'est-à-dire qu'il y a des Batman avec la sortie du film, il y en a. Fait que le recueil, exemple, Nightfall, est sorti aussi, et dans lequel on peut rencontrer le personnage de Bane, voir quelle est l'origine de cette chute-là, la chute de Batman. Il y a les BD aussi de Joseph Loeb et Tim Sale que je trouve extraordinaire, là, dont Amère Victoire, qui est une BD qui est tellement forte aussi sur l'univers de Batman, qui suit tellement bien Year One. Moi, ce que j'aime de Batman, c'est pas son côté fantastique, ou je dirais même fantasmagorique, c'est le côté plus, entre guillemets, plus humain, où on est près de la, où on est près de la mafia, où on est, personnage qui a de réels problèmes avec de réels méchants à quelque part.
Exactement, a priori peut-être un peu réaliste que propose ce super-héros-là, dans la mesure où, contrairement à Superman par exemple et à bien d'autres, c'est pas un super-héros avec des super-pouvoirs. En fait, son pouvoir, c'est d'être riche et de pouvoir se payer des gadgets. Ce qu'on a vu dans la trilogie de Nolan, c'est vraiment une mouvance qui s'est imposée. J'ai l'impression qu'au cours peut-être de la dernière décennie, particulièrement dans la sphère des comics, justement, donc avec des histoires comme celle de Bane avec le Year One et quelques autres sous-séries un peu plus emblématiques, si on peut dire aussi, qui sont imposées comme peut-être la tangente principale de ce personnage-là.
Absolument, absolument. Puis c'est un personnage qui est drôlement vulnérable aussi. Mm-hmm. Batman va rester, mais est-ce que Bruce Wayne sera toujours le Batman? Bon, ceux qui connaissent Batman savent que il va y avoir des changements à ce niveau-là, mais Bruce Wayne va faiblir, il va avoir des marques de fatigue. Bane, justement, va l'amener à vraiment réfléchir sur où il est rendu et faire un point sur sa carrière, parce qu'il est en burn-out, Bruce Wayne, là-dedans. Là. Donc, il y a une dimension humaine qui est extrêmement intéressante. Et moi, j'adore J'adore la relation Batman-Catwoman aussi, qui c'est ni blanc, c'est ni noir, on comprend. Lui-même ne sait pas trop comment il est attiré par cette personne-là. C'est là qu'on voit toute la richesse du caractère psychologique du personnage. Puis là, chez Urban, ben, comme je te disais, on y va. On sort des Batman, on sort des Catwoman. Il faut sortir à travers des Green Lantern, on n'a pas le choix. Il faut aller avec Flash, on n'a pas le choix, parce qu'à un moment donné, ça devient... Bon, en tout cas, pour moi, c'est qui est pas un amateur fou, là. Quand on tombe dans les multivers de DC, puis qu'on tombe dans les plusieurs terres et tout ce monde-là, eh bien, ça, pour moi, ça devient extrêmement compliqué. Donc, j'ai pas le choix de m'imbiber et de rentrer dans cet univers-là pour apprécier tout. Là, je vois qu'il y a ça va à double vitesse, c'est-à-dire que Batman est un personnage extrêmement intéressant. Lorsqu'on va tomber dans Flash, on va tomber dans un personnage qui est aussi intéressant pour au niveau de la structure du récit, mais surtout au niveau de la gestion du temps, parce que sa vitesse fait de lui quelqu'un qui est capable de gérer la temporalité, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus super-héros, c'est beaucoup plus... pour moi, c'est beaucoup plus une lecture de ma jeunesse avec les Marvel et compagnie. Je tombe dans un univers qui pas crédible, mais qu'on a du plaisir à croire et dans lequel on embarque. Et là, on entre Batman dans tout ça. Batman qui n'est pas Bruce Wayne, mais qui est son père, Thomas Wayne. Donc, ça devient extrêmement complexe.
J'ai l'impression, en fait, que l'entrée peut-être un peu par les Batman, par exemple, à cause de cet a priori réaliste-là, à cause de la richesse des récits proposés dans les séries dont tu donnes un exemple, ça devient une porte d'entrée un peu vers les autres univers aussi. Ça nous donne une manière d'entrer pour ceux qui sont moins ancrés justement dans l'univers comics américain. Ben, ça permet justement d'entrer et après ça d'essaimer, comme tu le dis, vers les autres titres, parce qu'à un moment donné, il faut commencer à quelque part aussi. C'est pas facile de trouver où commencer.
Absolument. J'ai peut-être lu, écoute, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai peut-être lu 2000 pages de Batman cet été, là. Ça vient que ça m'a habité. J'ai embarqué là-dedans et j'ai dit, mon Dieu, je suis passé à côté de quelque chose qui est extrêmement bien construit, qui est extrêmement fascinant. Je parlais un peu de Batman à mes collègues qui me regardaient avec des yeux, on va dire, t'as plus 12 ans, mon homme.
Mais non, là, c'est...
Je dis, non, c'est pas ça. C'est pas le Batman en caoutchouc qui fait pif-paf, là. C'est vraiment une personne intéressante qui est celle de Bruce Wayne. À la rigueur, Batman est accessoire, là. C'est Bruce Wayne qui est intéressant et le personnage principal de Batman, c'est Gotham City. Gotham City qui est une ville qui représente un peu les villes modernes, qui font l'assemblage des villes modernes nord-américaines où il y a beaucoup de problèmes, où il y a beaucoup de corruption, où il y a...
Et ben
c'est
voilà.
Extrêmement fascinant, c'est extrêmement bien construit, et c'est pas mal bon. Puis l'édition de Urban Comics, en plus, met avec la BD, le DVD du dessin animé de Irwan, qui est beaucoup moins fort, si vous voulez, que la BD, parce que la BD, c'est quand même excellent, là, mais ça reste quand même une curiosité intéressante.
Alors ben voilà, donc une porte d'entrée vers l'univers de Batman en profitant justement de ses sorties Urban Comics qui, selon Stéphane Gravel, mérite bien le détour. Stéphane, merci beaucoup.
D'ailleurs, je fais une parenthèse, mon petit jeune de 9 ans n'a pas réussi à supporter le dessin animé qui est dans le livre.
Ok, mon Dieu.
Trop violent.
Ok, on est dans BD plus pour adultes, ouais, peut-être.
C'est pas le sang qui éclate, mais c'est trop, ça fait, s'il y a trop de questions. Il y a trop de questions à se poser. Bon, j'arrête. Je laisse aux autres.
Et nous, on se reparle dans 2 semaines.
Absolument.
Alors, à très bientôt.
OK, bye.
Stéphane Gravel, donc, qui nous apportait ses commentaires sur la série Batman et sur les rééditions de Urban Comics. Et voilà, toujours avec des pièces proposées par Alk, ici à la vie en BD. Et maintenant, on s'intéresse, enfin, on est un peu en rattrapage, ou comme à l'habitude en septembre, avec la rentrée, ben on a toujours pris un peu de retard sur certaines parutions, notamment une qui nous est arrivée en cours du mois d'août. C'est dans la série 1800, proposée par l'éditeur Soleil, et c'est scénarisé par Jacques Lamontagne, dessiné par Siniza Radovic. Jack l'Éventreur contre Van Helsing, tome 1, tu as vu le diable. Et pour nous en parler, ben Jacques Lamontagne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en fait, j'ai l'impression d'ailleurs d'emblée, quand on mentionne un titre comme ça, Van Helsing contre Jack l'Éventreur, on fait tout de suite le lien avec le genre X versus Y. Et son lot de défis aussi, j'ai l'impression, parce que c'est des séries où on doit... avec succès ou insuccès, réunir deux univers mythologiques, deux mythes au bout du compte, essayer de trouver une raison aussi pour que ces deux mythes-là cohabitent. Ça doit être assez difficile à scénariser.
Oui, ben en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que la collection 1800 repose justement sur ces rencontres improbables, très souvent entre deux personnages issus de la littérature populaire de l'époque. Donc, on parle à la fin du 19e. Par contre, on a fait, il y a eu un petit écart de ce côté avec la thématique que Jean-Luc Istin, qui est directeur de collection justement de la collection 1800. Mm-hmm. Il m'a proposé le titre Van Helsing contre Jack l'Éventreur sans me donner plus d'idées ou de pistes. Il me dit, est-ce que tu es capable de me bâtir quelque chose, une histoire autour de ça? Et toujours dans cette collection, là, on s'inscrit souvent dans le format d'un diptyque. Donc, le défi était quand même de taille parce que les deux personnages ont été largement visités par plusieurs auteurs.
Oui, on a qu'à penser même en BD avec From Hell, notamment. Et donc, j'imagine, quand on parle de Jack l'Éventreur, il y a eu des explorations qui ont été faites. Est-ce que ça nous amène aussi, en tant que scénariste, à dire, bon, OK, il faut que je sois bien conscient de ce qui a été fait autour de ce personnage-là, autour de Van Helsing aussi, pour pas faire la même chose, pour pas explorer les mêmes pistes?
En fait, j'ai plutôt tenté, c'est ça, d'à peu près pas prendre connaissance de ce qui avait été fait autour. Je crois que j'avais vu l'adaptation de From Hell au cinéma. Sinon, la bande dessinée, je l'ai jamais lue. Et donc, c'est ce que j'ai tenté de faire, c'est de plutôt, parce que pour moi, c'est sûr et certain que lorsqu'on fait référence à Van Helsing, il y a tout l'aspect fantastique qui est autour du personnage, qui est incontournable. Mais je voulais pas tomber dans une proposition donnée au lecteur d'y aller avec un récit beaucoup trop fantastique, avec des vampires et tout ça. Donc, c'est sûr, je pouvais pas complètement occulter cet aspect-là de Van Helsing, mais j'avais plus le goût de servir un thriller policier historique au lecteur plutôt que de tomber, de verser là, carrément là, dans un récit qui était fantastique.
Et ça devient a priori assez intéressant d'ailleurs dans l'album, dans la mesure où justement vous placez ça après Dracula, donc d'une certaine façon, et on retrouve dans un Van Helsing qui est hanté par ce mal qu'il a rencontré, qui est en dépression, qui est tourmenté, et ça devient un peu lui l'ancrage dramatique de ça. Il y a l'enquête et il y a le personnage de Van Helsing et sa reconstruction un peu aussi au cours du récit.
Exactement. Ce que je trouvais intéressant, parce qu'on est habitué de se faire servir un Van Helsing, imperturbable, solide, tout ça. Et je me suis dit, ben, il me semble qu'après ces aventures qu'il a connues en Transylvanie, le retour à la vie devait être quand même assez difficile. Et d'autant plus que je me suis amusé à penser, et si les gens croyaient pas un seul mot de ce qui lui est arrivé justement du côté de la Transylvanie et qu'on le ridiculise. Et aussi à l'époque, ce qu'il faut se dire, c'est que la morphine, parce que bon, je propose un Van Helsing qui est devenu morphinomane pour justement s'évader parce qu'il y a des problèmes de sommeil et tout ça. Il est reclus chez lui, il sort plus. Et la morphine, bon, à l'époque, était en vente libre et je trouvais ça amusant d'une certaine façon de justement proposer au lecteur un Van Helsing complètement démoli et que son compagnon de longue date, son ami de longue date plutôt,
à Berlin, inspecteur à Berlin, qui a vraiment existé, viennent le voir chez lui, de un, pour essayer de le secouer un peu, mais également de profiter de l'intellect de Van Helsing, afin de l'éclairer un peu, peut-être, sur l'enquête qui piétine, c'est-à-dire les cas de Jack l'Éventreur.
Et en même temps, je trouve justement ces éléments-là servent l'ambiance de du 19e siècle qui ressort un peu de cette bande dessinée-là, parce que au-delà de l'enquête, c'est vraiment, il y a le côté ambiance qui est très fort dans ce que vous avez distillé à travers le scénario, je trouve, du moins.
Ouais, ben en fait, je dirais que le Londres de l'époque est le troisième acteur qui figure à cette histoire-là. Je me suis documenté beaucoup avant d'attaquer l'histoire. Entre autres, j'ai parcouru la brique que Patricia Cornwell a écrite à propos de Jack l'Éventreur. Je voulais dépeindre le Londres de l'époque, un Londres pauvre, c'est-à-dire bon, où le riche côtoie le pauvre, mais vraiment dans le Whitechapel où la misère était omniprésente. Et je trouvais ça intéressant justement de faire évoluer nos personnages, de montrer le décor de ce Londres-là très, très miséreux.
Et à ça, justement, intégrer une enquête qui est assez fouillée. En fait, je lisais des commentaires, notamment, qui soulignaient le fait que on va dans le détail au niveau des crimes, des choses comme ça. Donc, on sent la recherche aussi dans ces aspects-là.
Il y a une recherche, effectivement. Il y a un travail qui a été fait de façon très sérieuse derrière. Par contre, comme je dis en ouverture, c'est que il a fallu que j'y aille de petites tricheries pour servir le récit, donc au niveau de la chronologie des fois, ou au niveau de, bon, je développe un peu plus pour certains personnages, entre autres dans ce premier tome, il y a un personnage qui est pas une victime confirmée, mais qui pourrait être une victime possible de Jack l'Éventreur, donc j'ai utilisé ce personnage-là. Il y a de petites tricheries comme ça, mais afin de servir un récit qui devrait réserver de belles surprises, justement, avec le tome 2.
Et côté travail de recherche, est-ce que le fait d'avoir travaillé sur une série comme Aspic, bon, au niveau du dessin, qui lui, dans le Paris du 19e siècle, a donné aussi un coup de pouce, dans la mesure où c'est une période, bon, que vous connaissez déjà quand même assez bien?
Oui, je dirais surtout le gros coup de pouce que ça a donné, c'est l'intérêt que Jean-Luc Estin a suscité lorsqu'il m'a proposé le projet. Parce que c'est une période que j'affectionne beaucoup. Et par contre, il est certain que le Londres de l'époque, je le connaissais comme à peu près tout le monde, mm-hmm. à travers les films d'époque. Mais sinon, il a fallu, comme je disais, me documenter énormément pour attaquer cette histoire-là.
Ce qui se passe d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, c'était deux réalités quand même différentes, deux sensibilités différentes aussi. Donc,
Exactement.
Et au niveau de l'enquête, en fait, je me demandais de quelle manière un peu vous avez abordé le récit. Est-ce que c'est d'abord un peu l'enquête, essayer de voir de quelle manière vous allez développer ça et ensuite y greffer le personnage de Van Helsing, ou au contraire, c'est le personnage de Van Helsing qui a été un peu l'ancrage et c'est son histoire à lui auquel se greffe justement cette enquête-là? Donc, je sais pas, est-ce que c'est la poule ou l'œuf là aussi? Là?
En fait, les deux sont indissociables. J'ai construit l'enquête autour de Van Helsing. C'est sûr que je peux pas pour l'instant trop en révéler, parce que il va vraiment y avoir de grosses surprises pour les lecteurs avec le tome 2. Ce tome 1 ne sert qu'à installer l'histoire et installer l'ambiance. Et par contre, c'était quand même assez rigolo parce que je recevais des mails de lecteurs qui me disaient je le sais, j'ai deviné qu'est-ce qui allait se passer dans le tome 2, tout ça. Et bon, je suis plutôt heureux parce que les pistes que j'ai données aux lecteurs, je voulais l'amener dans certaines directions. Et puis je crois que il y a vraiment une bonne surprise, un bon punch qui va arriver avec le tome 2 là.
Et s'il y en a qui se disent en nous écoutant, peut-être que Jack l'Éventreur c'est Dracula. On peut mentionner que vous avez choisi, on parlait de liberté tout à l'heure, notamment face à l'œuvre aussi de Bram Stoker. En fait, dans les premières pages, c'est pas un punch pratiquement, là, mais dans les premières pages, Van Helsing le tue Dracula. Donc, vous avez essayé de mettre de côté un peu du moins l'apparence de cette hypothèse-là dès les premières pages du livre.
Exactement, oui. Puis encore une fois, il y a une petite tricherie par rapport à l'œuvre de Bram Stoker. Ça se passe pas exactement comme ça, là, au moment où on trucide le maître des ténèbres. Mais Exactement. Bon, on écarte, j'écarte du coup, moi, la toute possibilité que ce soit Dracula là, qui soit à l'origine des meurtres de Whitechapel. Là.
Donc, on verra. En fait, je suis bien curieux, d'ailleurs, à la lecture du premier, de voir où vous allez nous amener dans le deuxième. Donc, ce sera à suivre. Et peut-être en terminant, au niveau du travail avec Sinisa Radovic, comment s'est passée un peu la transition vers le dessin? Est-ce que ça s'est fait un peu à quatre mains ou est-ce qu'au contraire, c'était vraiment vous, scénario, ensuite maximum de détails et vous passez ça ensuite à Radovic?
Oui, ben toujours de la même façon, lorsque je collabore avec un dessinateur, j'essaie le moins souvent de possible d'intervenir dans son processus créatif. Lorsque je vois par contre qu'on s'écarte un peu trop de la pensée ou que j'avais, bon, parfois je peux y aller de petites esquisses rapides, mais sinon, ben, j'aime bien laisser toute la liberté possible au dessinateur.
Et sinon, pour vous, Jacques Lamontagne, en fait, vous êtes toujours extrêmement actif, et je pense que là, en fait, c'est les druides, Aven, Aspic, Van Helsing, plusieurs projets sur la table. Il y a un autre aussi qui sera en développement autour de thématiques plus diaboliques, si je me trompe pas.
Ouais, ben en fait, là pour l'instant, j'en ai mis un petit peu de côté parce que je me suis rendu compte que c'était quand même un rythme un peu épuisant. Là, je viens tout juste de terminer le 7e tome des druides qui devrait paraître ici au Québec, selon moi, autour de décembre. Et je viens de reprendre au dessin la série Aspic pour servir un tome 3 très prochainement, dès l'an prochain, au lecteur.
Alors, beaucoup d'éléments à suivre, et évidemment, Van Helsing contre Jacques l'Éventreur, le tome 2 qui s'en vient, j'imagine, en cours d'année prochaine.
Exactement.
Voilà, ben Jacques Lamontagne, merci.
Merci à vous.
Et au plaisir.
Au revoir.
Alors voilà, c'était Jacques Lamontagne, donc scénariste de Van Helsing contre Jacques l'Éventreur, tome 1. Tu as vu Le Diable, c'est aux éditions Soleil. Et quelques actualités avant d'aller en pause. Les gagnants des prix Joe Chaster ont été dévoilés en fin de semaine dernière au Comic Con à Montréal. Petit survol des lauréats. Notamment, on parle des dessinateurs de couverture exceptionnelle de l'année. En fait, François Lapierre pour la couverture de Chronique Sauvage, tome 1, Texan. Ça, c'est chez Glénat, Québec. Également, si on reste dans les auteurs québécois, ben, Paul Roux a été récompensé pour le prix bande dessinée Jeunesse pour Ariane et Nicolas, tome 6, L'étoile mystérieuse. Ça, c'est au 400 coup. Sinon, plusieurs auteurs anglophones également ont été récompensés dans le cadre de ces prix, notamment pour l'auto-édition, c'est Dakona McFanzean pour Ghost Rabbit, bande dessinée web, Emily Carroll pour Comics 2001, bande dessinée, donc meilleur scénariste de bande dessinée, c'est Curtis J. Webb pour Green Wake, tome 1 à 8, et Stuart Immonen qui lui est dessinateur de l'année, donc pour Fear Itself, tome 1 à 7, et enfin, l'auteur de bande dessinée exceptionnel. Le prix a été remis à Ramon K. Perez pour Jim Henson's Tale of Sand. Ça, c'est chez Arcaya Press. Et les BD précédentes étaient chez Marvel et Image Comics. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus, ben, les liens sont notamment sur mon blog sur voir.ca, Raymond, trait d'union Poirier. On prend une courte pause. On revient tout de suite après. À venir, notamment, Je me souviendrai du printemps érable et également Marco Duchesne.
Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui.
Tout ce qui tombe, trois décennies, quatre histoires d'amour, six destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds de Tiroir, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre, information 641-8131 ou letrident.com.
Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Three Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Three Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Three Friends au Palais Montcalm, du progressif pur, dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca.
Le Théâtre Sortie de Secours de Québec
et la Sala Beckett de Barcelone
vous invitent au Périscope pour découvrir leur nouvelle création Québec-Barcelona.
Deux Québécois.
Deux Catalans.
Deux langues.
Une rencontre.
Une comédie de Mercès Arias.
Mise en scène par Philippe Soldevilla. Québec-Barcelona, du 25 septembre au 14 octobre seulement, au Théâtre Périscope rue Crémazie. Informations et billets disponibles au 88-529-2183
ou sur les réseaux Billettech.
Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés.
Toujours à l'antenne de CKRL 89.1, c'est La Vie en BD qui se poursuit jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission ou des podcasts des émissions précédentes, ben c'est sur lavieenbd.wordpress.com. Et je vous invite également à nous suivre sur le site de socialisation Facebook. Mettez La Vie en BD dans l'engin de recherche, vous devriez être en mesure de nous trouver. On poursuit avec les regards sur les sorties d'août dernier. L'ouvrage « Je me souviendrai » aux éditions La Boîte à Bulles qui est apparu sur les étals des libraires. Un ouvrage qui s'intéresse au mouvement social au Québec du printemps 2012, le printemps érable, qui fait l'alliage entre la BD, l'illustration, le pamphlet, l'éditorial, même le cinéma. Et pour nous parler de cet ouvrage collectif, de sa genèse et de sa création, ben, on est en compagnie de la personne derrière. Un peu c'est cette union-là, André Caddy alias Soulman. Bonjour.
Bonjour.
Et d'emblée, en fait, j'ai l'impression que ce recueil-là témoigne beaucoup de la créativité qui s'est manifestée pendant le printemps érable, de voir à quel point ce conflit social-là a inspiré l'imaginaire des artistes québécois, des artistes français aussi. C'est fascinant et c'est beau de voir ça, je trouve.
Oui, ben en fait, c'est une idée qui est venue depuis 2009, finalement, quasiment, parce qu'on avait fait un collectif pour Gazan, avec la boîte à bulles déjà, qui nous a permis justement de mettre beaucoup de travaux de journalistes, de dessinateurs, d'illustrateurs ensemble, puis on avait eu un très bel accueil, parce que ça permettait aux gens de lire ça tranquillement, puis après de se faire une idée sur la situation, puis après, on a vu des bonnes critiques de gens qui nous disaient « J'ai enfin découvert ce qui se passait là-bas, en me laissant le temps, sans me sentir agressé », donc on voulait faire un petit peu la même chose là pour le printemps 2012.
Et en même temps, c'est cette idée, vous en parlez aussi dans la préface, que le web va tellement vite qu'à un moment donné, tout ce qui a été créé au printemps, ben, il se retrouve assez loin dans les archives des différents sites aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'est de garder un peu une mémoire collective, un peu de ce qui s'est fait au printemps.
Oui, c'est ça, parce que ça vient surtout des textes. Parce que donc moi, ben, je viens du milieu de la BD, donc je connaissais bien les auteurs de Montréal, Québec et beaucoup en France. Mais je lisais des textes comme ceux de Normand Baliargeon ou Hugo Latulippe, Plour Varidel. Puis j'ai trouvé vraiment magnifique. Puis le but, et puis le lendemain, j'en parlais, là, en arrivant au studio au pot, puis tout le monde me disait, ah, non, je l'ai pas lu celui-là. Puis, mais moi, pour aller le rechercher, je me rendais compte que ça allait tellement vite, l'information, que c'était difficile de retrouver des articles ou des choses comme ça. Donc, j'ai tout de suite appelé les gens-là pour leur demander, est-ce que vous voudriez faire un collectif avec vos textes, qu'on mette tout ça, puis qu'on vienne y amener de l'illustration, des auteurs BD pour donner un autre regard un petit peu sur la crise.
Et je pense que tout ça, justement, ça s'est fait assez vite. Et j'ai lu à quelque part, c'est pratiquement en moins d'un mois que vous aviez mis tout ça ensemble, ficelé tout ça.
Oui. Ben moi, en fait, quand je sais comment ça se passe, là, c'est assez long à se mettre en place. Donc, tout de suite, j'ai dû appeler peut-être 100-120 personnes le soir même. J'ai envoyé des courriels à tout le monde pour proposer le projet en leur disant, de maintenant, là, dans 3 semaines, il faut que j'ai tout le matériel, parce que dans 3 semaines, je fais le bouclage, puis on va sortir ça, parce que je sais que sinon, après, ça allait traîner, puis ça allait devenir difficile.
Et la réponse a été bonne, j'imagine, a été assez favorable.
Oui. Il a fallu coordonner tout ça parce que il y avait du monde en France et un petit peu partout. Mais non, énormément de monde. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est dommage aussi, c'est que depuis, pendant les lancements notamment, on a rencontré plein d'autres personnes, des intellectuels du Québec notamment, qui m'ont dit « Ah, j'aurais voulu participer ». Il y en a beaucoup là qui disent ah, s'il y avait un autre volume là-dessus, du coup je voudrais mettre un texte là-dedans ou une illustration ou une planche ou quelque chose.
Oui, parce que justement ça amène toujours un peu la question quand on voit des ouvrages collectifs, des sélections comme ça d'éléments qu'on a retrouvés dans d'autres médiums, comment un peu s'est fait le choix derrière, parce que il y a quelques pratiquement 300 pages, mais comme vous le dites, ça aurait pu venir sur 600 simplement en réunissant une partie de ce qu'on avait disponible sur la toile. Donc qu'est-ce qui vous a amené à choisir telle planche, tel auteur, telle illustration, tel texte?
Ben, c'est pas mal des coups de cœur. C'est chaque fois que je lisais un texte que je trouvais vraiment beau, j'appelais la personne, notamment Léa Clermont-Dion, par exemple, puis souvent, c'est les gens du collectif qui me disaient « Ah, mais j'ai un ami aussi qui a écrit ça, puis qu'est-ce que t'en penses ?» Puis du coup, j'allais lire, et puis je contactais la personne. Puis assez vite, là, avec le cercle des amis qui arrivaient, du coup, on est arrivé à ça, puis au bout d'un temps, il a fallu dire stop maintenant, parce qu'il fallait le sortir et puis faire la maquette et tout ça, là.
Et est-ce qu'il y avait une volonté aussi d'aller chercher des médiums variés? Parce que, je le disais en introduction, en fait, on va dans l'essai, on va dans l'illustration, dans la bande dessinée, dans la BD reportage, dans la BD plus fiction. Donc, c'est vraiment une explosion de style là, dans ce recueil-là.
Oui, ben c'était une sorte de témoignage. On voulait qu'un peu tous les gens qui avaient suivi ça un petit peu puissent y retrouver, en gros, ce qu'ils avaient vu, puis que ça leur rappelle des images. Quand ils liront dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans... qui puisse se dire « Ah oui, je me rappelle ce texte, je me rappelle ce court-métrage. » Puis donc, le but, c'est un peu de réunir tout ça.
Et est-ce qu'il y a une volonté aussi un peu éditoriale là-dedans, donc dans le choix, dans le choix des opinions, des regards et de la vision du conflit aussi qu'on a choisi de pousser dans « Je me souviendrai » ?
C'est sûr, parce que du coup, c'est bon, beaucoup de textes, évidemment, sont favorables à la cause, entre guillemets, mais par contre, c'est très modéré en général. Il n'y a rien d'exalté, il n'y a rien de mauvais goût, il n'y a pas d'attaque personnelle, ni envers des noms, ni envers des journaux, ni envers quoi que ce soit. C'est pas du tout le but de régler des comptes ou que des gens qui puissent le lire se trouvent pas confortables à lire, peut-être. Le but, c'est vraiment d'arriver avec des textes vraiment très apaisés, qui expliquaient juste à leur façon. Puis les plus beaux remerciements qu'on a eu sur le collectif, on a reçu beaucoup de messages après qu'ils soient sortis, de gens qui nous disaient, de gens de 40, 50 ans, qui disaient « Moi, au début, pendant le conflit, j'étais vraiment contre ça, parce que les étudiants, ça m'énervait, je voulais même pas écouter ou lire. » Puis là, j'ai lu le livre, puis vraiment, là, ça m'a retourné, parce que j'ai découvert plein de choses que j'avais pas vues pendant ce printemps-là.
C'est un peu dire, dans le fond, lisez ça et vous allez comprendre la vision, le regard que portaient les carrés rouges, entre guillemets, sur la situation et vivre un peu le conflit, donc au point de vue et dans la peau peut-être un peu de ces militants modérés-là.
Voilà, de dire surtout que c'est surtout un éveil. Je pense que c'est une prise de conscience de plein de choses, pas forcément uniquement sur la hausse des frais de scolarité ou les carrés rouges. C'est un peu un éveil. Et puis le but, c'était aussi, il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivaient, qui disaient ah, « Moi, j'étais à une réunion de famille, c'est la première fois que je parle politique en famille, mais j'avais pas d'arguments, puis mon oncle, j'ai pas été capable d'en placer deux. » Donc le but, c'était un peu aussi de dire « Ben, prends ce livre-là, amène-le à ton oncle, et puis il va le lire tranquillement, et peut-être que vous allez pouvoir discuter un peu plus calmement après ça. »
Et en même temps, justement, vous parlez d'éveil, André Cady, et je trouve que le choix que vous avez fait, en fait, dans l'organisation est assez simple, en fait, en termes d'ordre, c'est le choix chronologique, et on sent bien, justement, à travers ça, l'éveil et l'évolution aussi de ce conflit-là, l'éveil que ça a généré, mais aussi le regard qui change sur la situation, vraiment, au fil des mois. Donc, le choix chronologique qui vient servir, je pense, assez bien le côté récit, le fil conducteur du volume.
Oui, on a essayé d'être assez objectif là sur les événements, en prenant ça vraiment sur dans des journaux souvent très objectifs, Le Monde par exemple, ou Radio-Canada, qui ont une couverture assez objective, je pense, quand même, des événements. On n'a pas été prendre cette chronologie dans les journaux plus engagés, ni d'abord ni de l'autre, pour essayer vraiment de montrer juste cette escalade là qui a amené un petit peu, surtout en mai, là où c'était un peu le point culminant. Et même nous, le fait de le relire maintenant, ça nous rappelle certaines choses.
Et justement, là-dedans, il y a certaines bandes dessinées, certains segments dessinés où c'est carrément justement des gens qui se souviennent, qui se rappellent, ben voilà, ok, j'étais là, je faisais ci, et maintenant je regarde la télé, le reste, donc un côté très BD autobiographique, et oui. qui apporte bien, je pense, à cette teinte-là aussi que vous avez cherché à donner.
Ben moi, c'est ce que j'aime beaucoup. J'ai un immense respect pour beaucoup des intervenants, comme Hugo Latulippe, Normand Baillargeon. Donc eux, quand ils s'expriment, c'est quelque chose de très modéré, de très profond. Éric Pinault qui nous a écrit vraiment un texte magnifique pour le collectif. Puis à côté de ça, il y a beaucoup de jeunes aussi qui disent clairement, ah moi c'est une première manifestation, je n'étais pas engagé jusque-là, je ne m'intéressais pas du tout à ça, puis ils découvrent un petit peu tout ça. Puis je trouvais les deux visions assez intéressantes, mm-hmm. parce que ça amenait beaucoup de fraîcheur, et à la fois ça amenait beaucoup de fond quand même pour expliquer des choses.
Et quel serait justement, si on avait à pointer quelques, je dirais pas des faits saillants, mais à brûle pour point comme ça, des éléments qu'on pourrait présenter aux auditeurs, auditrices qui ont pas vu le livre, qui ont pas vu le récit, qui seraient peut-être un peu parmi les points forts, des moments forts, soit côté BD, soit côté texte?
Oh, il y en a tellement, c'est difficile. Ça dépend un petit peu de ce qu'on aime. C'est-à-dire, les gens ne voient pas du tout la même chose. Puis certains viennent avec les textes, d'autres viennent juste avec les illustrations. Moi, j'aime beaucoup les planches de Jimmy Beaulieu, par exemple, parce que en quelques images, il arrive à montrer là, dans le regard d'un couple au milieu de la manifestation de Victoriaville. On voit l'amour et puis ça. Le texte, je pense, de Normand Baillargeon, Je porterai dorénavant Carré Noir, que moi j'aimais beaucoup. Le court-métrage de Samuel Matteau aussi, avec le grand-père et sa petite-fille, où on a choisi de mettre vraiment le storyboard, juste le script et des images tirées du court-métrage. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui m'ont beaucoup touché, en tout cas, quand on les recevait au fur et à mesure.
Et qu'est-ce qui faisait que ces éléments-là vous touchaient tout particulièrement?
Ben, je pense que c'est le fait de les avoir vus séparément, puis d'avoir déjà beaucoup aimé les textes ou les illustrations qui étaient faites aussi beaucoup, parce que beaucoup étaient faites spécialement pour le collectif, mais surtout de voir la combinaison. Puis même les auteurs, d'ailleurs, c'est ça qui était drôle. Par exemple, M. Stéphane Laporte, il nous a envoyé ses textes, il était très content de participer. Et quand il a vu après, finalement, avec les illustrations de Paul Bordelot, notamment, et tout ça dans le collectif, ils étaient très touchés, les auteurs, de voir finalement des BD ou des illustrations qui venaient compléter un petit peu leur texte, puis qui donnaient carrément une autre perception.
Et en même temps, je trouve que ça montre aussi la force, justement, de la BD et de l'illustration pour venir saisir l'instant. On aurait mis des photos, ça aurait pas eu la même force, je trouve.
Oui, non, mais c'est quelque chose qui arrive maintenant au Québec. Là, avec Guy Delisle, qui est venu parler un peu de son travail pendant l'été, on l'a vu. Moi, je suis un auteur qui fait toujours des albums assez engagés. J'ai fait un album sur le suicide chez l'enfant, un autre sur la Palestine. Je trouve que la BD est là aussi pour raconter des choses. Et puis ici, ça étonnait du monde au début quand je présentais mes albums, parce qu'ils pensaient pas que la BD était faite pour ça, à la base. Puis là, maintenant, on a de plus en plus d'auteurs au Québec qui ont cette envie de raconter des choses, de témoigner, puis de donner un avis sur le monde ou un regard.
Et en même temps, en fait, je veux pas non plus, parce qu'on jase comme ça, mais quelqu'un qui l'a pas lu pourrait dire, mon Dieu, c'est donc bien sérieux et engagé, tout ça, mais il y a beaucoup d'humour aussi dans le recueil. On pense ben, notamment à Passion Rougemont de Philippe
oui,
Girard,
oui, oui.
Le super-héros. Ça vient aussi un peu, j'ai l'impression, servir un peu de parenthèse au moment peut-être un peu plus sérieux et dramatique de ce qui est présenté là-dedans.
Oui, ben, y a beaucoup de... Anton Corriveau aussi,
oui.
Qui donc était un auteur BD qui était parti vers la musique, là, qui est un chanteur, qui est revenu à ses premières amours de BD pendant ce conflit-là, qui a dit, moi, je reprends les crayons, parce que ça me donne envie de re-raconter des choses par le dessin, puis qui du coup est parti sur, je crois qu'il en est maintenant à plus de 50 pages, parce que ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a des initiatives qui sont parties au moment du collectif. Passion Rougemont, ça a commencé pendant le collectif, Antoine y a commencé un petit peu avant, mais qui sont continués après, parce que les gens continuent à faire des planches, puis c'est pour ça qu'on a mis les adresses des blogs, pour que les gens puissent, en lisant le collectif, donner le goût après d'aller voir le travail des gens séparément.
Oui, un peu comme en fond, avant le collectif, il y a eu des d'autres ouvrages, on pense à Dépasser la ligne, des choses comme ça. Donc déjà,
oui.
Des illustrateurs qui se disent, on se met ensemble, on fait quelque chose. Et donc, cette énergie-là et ces rencontres-là, ça se termine pas non plus avec le printemps lui-même et avec la fin officielle, entre guillemets, du conflit également.
Non, oui, la manif des bonhommes, là, par exemple, a été imprimée il y a pas longtemps, donc à Montréal, elle a été exposée. Je sais que l'école de la Montagne Rouge a pendant longtemps continué aussi à faire du visuel graphique, donc pour la crise. Il y a vraiment beaucoup de belles choses au niveau graphique, notamment pendant ce printemps. L'école de la Montagne Rouge a beaucoup fait aussi au niveau de la symbolique. C'était quelque chose qui, ça laissera des images fortes, je pense.
Alors, ben, on peut en découvrir une partie, une portion, un élément de cet iceberg créatif qui est ressorti donc lors du printemps érable avec cet ouvrage collectif. Donc, Je me souviendrai 2012, Mouvement social au Québec, qui a été coordonné par André Caddy, alias Soulman. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et je vous rappelle que tout ça est disponible à la boîte à bulles. On s'en va avec un dernier extrait audio avant de retrouver Marco Duchesne. On écoute Alk avec Perfect Complete. Et voilà, toujours à CKRL 89.1, dernière ligne droite pour la vie en BD, ligne droite dans laquelle on a le plaisir de retrouver Marco Duchesne. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Oui, oui.
Et Marco, enfin, on est dans une sortie très, très récente cette semaine, puisque tu seras de retour cet automne pour nous partager donc tes commentaires, tes regards sur la BD. Et on commence avec Lorna de Bruno.
Ouais. Écoute, une rentrée, un été assez calme et une rentrée, qui s'avance lentement mais sûrement. On a eu droit à un album extraordinaire qui s'appelle D'autres larmes de Jean-Philippe Perrault, c'est très étrange. Et rentré il y a quelques jours, l'extraordinaire, et je dis extraordinaire parce que je l'ai lu, évidemment, French Kiss 1986 de Falardeau, qui est un album assez succulent, vu qu'il raconte un événement dans les années 86 qui est en plein dans mon époque où j'ai vécu mon adolescence. C'est une guerre des tucs pour moi et pour dessus de ma génération. Alors, une rentrée, somme toute, lente, mais intéressant.
Oui, en fait, j'aime bien avoir un peu moins de titres, mais très bon que
ouais, mais attends, de titres un peu... ouais, tant mieux parce
mais
que...
l'avalanche s'en vient, là.
Ouais, l'avalanche s'en vient. Et est arrivé il y a quelques semaines, pendant fin de l'été, un album de Bruno. Bon, Bruno, moi, je suis un inconditionnel dès ses premières parutions. J'ai adoré ce qu'il faisait. Bruno, avec ses complices, des différents scénaristes, Bruno nous a offert au cours de ses premières années des hommages. Il a touché à tous les genres. Avec le western, une série qui s'appelait Junk. Avec le polar des années 70, une magnifique série qui s'appelait Inner City Blues, où on racontait l'histoire de deux frères d'une mafia noire dont un adorait le jazz. Magnifique série, magnifique hommage au polar des années 70 avec des images qui sortaient de discothèques. Vraiment, là. Ensuite, on a eu droit à du science-fiction, qui s'appelait une série qui s'appelait Isotope.
Donc déjà assez éclaté en termes
de
sujet,
non, mais chaque fois, chaque fois le genre était très strict, c'est-à-dire que dans Isotope, c'est vraiment de la science-fiction, un peu polar, mais science-fiction, les décors, outre-planète. Un série de guerre, un récit de guerre en trois tomes qui s'appelait Commando, où là, le deuxième tome était un magnifique hommage à Jules Verne. Deux soldats français se retrouvent dans un sous-marin allemand et parcourent sous les mers avec un espèce de capitaine allemand qui était Nemo, avec sa philosophie de la vie, de la guerre, bref, et tout ça avec ce dessin que Bruno fait un peu rondelet, un peu simpliste, mais qui, malgré cette simplicité-là, arrive à nous faire passer sentiments, émotions, sensibilités. Qu'est-ce que Lorna?
Exactement.
Eh bien, Lorna, c'est en solo. C'est Bruno, lui-même, tout seul, qui décide de chez Très Étrange, la maison d'édition Très Étrange, de nous produire son hommage à lui, de genre qu'il aime particulièrement, le film de série Z.
Oh!
Alors, c'est un dérapage contrôlé tout du long, un hommage au porno, un hommage au film d'horreur des années 50 et un hommage au film de japonais, de monstres qui se battent dans la rue, dans la ville, là, des monstres.
Les Godzilla et autres.
Tout ça semble un peu confus quand j'en parle, mais faut voir comment il nous l'amène.
Oui, parce qu'en fait, c'est des univers qui se mettent bien en parallèle.
Ah, tout à fait. Écoute, et quand je dis dérapage contrôlé, bon, la star du porno qui s'appelle Lorna, et ce qui est amusant, c'est que le livre arrive avec une jaquette, et si on enlève la jaquette, on a le droit au magnifique poster d'un de ses films où elle est la star, là, un film porno. Donc, cette Lorna... un fils riche d'une industrie de la pharmacie, de pharmaceutique, ce fils du magnat est amoureux d'elle et veut l'impressionner, crée un médicament qui en fait s'avère être un flop, mais l'assistant du fils va devenir le savant fou, va créer une pilule et va faire en sorte que le fils, le personnage, devienne un monstre. On a déjà la mouche, on a déjà ses expériences humaines sur des humains qui finissent. Dans la deuxième partie, une femme de 50 pieds atterrit sur la Terre. On se demande qu'est-ce qu'elle a, elle est silencieuse et elle avance tranquillement au point où, à un moment donné, elle avale le producteur de films porno qu'on a vu. Et le producteur qui, à l'intérieur de la femme de 50 pieds, va découvrir que cette femme de 50 pieds est tout simplement un vaisseau extraterrestre piloté par des pingouins.
OK, donc c'est bon. Quand tu parlais de dérapage, je pense qu'on un dérapage contrôlé, mais un beau dérapage aussi.
Tout ça est amené magnifiquement, lentement, avec beaucoup d'humour. Et à la fin, la créature monstrueuse va affronter dans la ville la femme de 50 pieds. Écoute, tout ça... Tout ce que je te raconte, graphiquement, avec ce magnifique dessin que peut faire cette simplicité avec laquelle évolue Bruno, eh bien, il est en bichromie, blanc, noir et jaune.
Oh!
Le jaune, comme mon t-shirt. Bon,
oui, ben, fait,
voit,
pour, les gens voient pas, mais c'est un t-shirt assez jaune. Je dirais pas jaune canari, mais ça tend vers
Serein.
Serein. Est-ce que, parce que là, tu me mentionnes jaune, ma première réaction, ce serait de dire, mon Dieu, ça doit être fatigant à la longue.
Pas du tout. Cette bichromie-là, je pense que ce jaune-là, si ça avait été en rouge, ça aurait été trop agressif. Si ça avait été en bleu, ça aurait été trop soft. Si ça avait été en vert, non. Ce jaune-là est efficace. Je l'ai relu et jamais il ne m'a dérangé. Même que ça appuie, je crois. Cet univers-là traité avec cet humour-là. Vraiment un album pour ceux que, si on ne connaît pas Bruno, c'est une belle porte d'entrée. On verra son côté un peu plus dérapant, parce que dans les autres séries, il est très conventionnel, pas conventionnel, je dirais que il rend hommage avec une rigueur incroyable. Le western pour Junk, c'est très rigoureux. La vengeance de frère, le commando, les réflexions de soldats français. En fait, c'est des soldats français, mais colonisés des îles qui sont incorporés en France. Et là, qui vont. Et Biotope avec cette espèce de truc de science-fiction. Tout est respecté rigoureusement dans le genre. Ici, on sent son amour pour le genre de film de série Z, mais on sent aussi tout l'humour, on peut en rire, parce que le film de série Z...
Ben, on doit en rire, en fait.
En fait, tu connais le truc, c'est que, bon, personne n'aime, mais tout le monde les écoute quand ils passent à la télé ou que quelqu'un leur passe le DVD.
Oui, ou quand on tombe dans des films de dérapage, justement, comme Brain Dead, par exemple.
Ouais, ben, ou Shaun of the Dead, des trucs comme ça, tout est là. Vous allez vous amuser, je pense que on ne connaît pas Bruno, ben, c'est une belle porte d'entrée, après, on pourra voir son sérieux.
Et quand tu parles, Marco, de dessin naïf, si on peut dire, ou d'une simplicité dans le dessin, est-ce qu'on peut détailler un peu plus justement à quoi ça peut...
En fait, c'est très rond, c'est très simple. Souvent, les yeux ne sont pas détaillés, les yeux sont noirs ou blancs. Il n'a pas de trait de contour.
OK.
C'est très à plat, on dirait des formes qu'on... Un peu à la... à South Park. Tu sais, quand on voit au début dans le générique, on voit comment il crée les personnages avec des formes de différentes couleurs appliquées un par-dessus l'autre. Ça donne finalement un personnage. On dirait que c'est comme ça. Théâtre d'ombre et tout. Mais bref, au-delà de ça, je pense que pour l'histoire, vous allez franchement vous amuser. Il vient de sortir, c'est une valeur sûre. Il vient de sortir, je suis en train de lire, juste mentionner. Je sais pas si j'aurai la chance de la prochaine chronique, peut-être sortira quelque chose qui... Mais si vous avez la chance, il vient de paraître cette semaine, il y a deux trois jours, que j'ai commencé à lire un album extraordinaire qui s'appelle Mars Aller-Retour. C'est de Pierre Oisem. C'est chez Futuropolis. C'est un récit intimiste d'un dessinateur au bord de l'abîme. C'est à la façon de Larsenet pour son combat. Son combat ordinaire. Mais ici, si dans le combat ordinaire, Larsenet, son Manu, est conscient de son état, ici, Pierre Oisem, son récit, le personnage, en est pas conscient. Et il est sur le bord de la faillite, il est sur le bord d'être sur le trottoir, il est sur le bord de perdre sa femme, il a pas de travail, il veut pas dessiner de BD parce que il y en a marre. Bref, je vous le conseille fortement pour ceux qui avaient adoré Le Combat Ordinaire. Moi, j'étais un fan, ça m'a beaucoup interpellé, et je me suis dit, enfin, un autre album dans ce genre parce que à un moment donné, entre les deux, il y a toute une foule d'albums du même genre qui sortent, mais avec autant de force, je pense que ça peut vous intéresser.
Alors, trois éléments à retenir des sorties récentes. Donc, Francisque 86 de Falardo, Lorna de Bruno et Pierre Loisem avec...
Mars aller-retour.
Mars aller-retour. Alors bon, on en profite, on débute la saison agréablement chez nos libraires notamment. Marco Duchesne, nous on se retrouve dans deux semaines.
C'est un rendez-vous.
Merci.
Plaisir.
Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, toujours des belles rencontres, notamment une plateforme de BD web qui s'appelle Kimik, qui a été lancée. Il y a plusieurs BDistes qui collaborent déjà. On vous en parle un peu plus en détail. Également, on reçoit l'auteur d'Asymptote, Simon Banville. Alors ça, c'est pour la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Et dans quelques instants, ce sera l'émission Soulfinger qui prendra la relève.